Cependant, Normand va être revenu. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Romains 12. Romains chapitre 12. Et on va aller dans la prière ensemble. Père éternel, bon Père, nous venons de chanter tes compassions, ton amour, ta grâce, la puissance de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'expression de ton amour pour nous, Seigneur. Une humanité pécheresse, débauchée, sous ta colère, sous ta juste et sainte colère. Et cependant, Seigneur, ton amour persiste jusqu'à envoyer ton Fils sur cette croix. Sois béni, Seigneur. Père, je veux réclamer au nom de Jésus-Christ la puissance de ton Esprit ce matin, alors que nous nous penchons sur ta parole. Fais-moi grâce, Seigneur, et fais grâce à cette assemblée en m'accordant le privilège d'exposer clairement tes Écritures, Seigneur. Mais Seigneur, tu sais que ton serviteur est un pécheur, indigne de proclamer ta parole. C'est derrière la croix de Christ, Seigneur, que je me cache. C'est revêtu par le pardon qui est en Jésus-Christ, que j'ose, Seigneur, venir devant cette assemblée et ouvrir la bouche. Mais tu nous as promis, Seigneur Jésus, que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Viens te manifester par ton Esprit Saint ce matin. Dans nos cœurs, Seigneur. Et si parmi nous, quelques-uns n'ont pas encore l'assurance de leur salut, viens, Seigneur, briser toute résistance. Viens, Seigneur, retirer le voile qui est sur leur cœur ce matin et que ton Évangile brille dans toute sa gloire afin qu'ils puissent chanter avec nous au jour de ton retour tes louanges et ta gloire. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. L'apôtre Paul a commencé la lettre aux Romains dans le chapitre 1 avec cette déclaration après quelques versets. « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Nous avons vu ensemble au cours des trois dernières semaines, puisqu'on fait ce survol de la lettre aux Romains qui se termine ce matin, on a vu ensemble au cours des trois dernières semaines que tous les hommes, tous sans exception, hommes, femmes, enfants, tous sont pécheurs. Nous sommes tous dans le même bateau, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine, d'où que tu viennes sur la terre, nous sommes tous pécheurs. Et par conséquent, la colère de Dieu repose sur tous les hommes. Que ce soit ceux qui ont été exposés à la parole de Dieu parce qu'ils sont juifs, descendants de juifs, et donc ont été exposés à la loi de Dieu. Ils sont sous la colère de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu obéir aux standards de Dieu. La parole de Dieu, la loi de Dieu était là pour exposer leur nature pécheresse comme celle des autres hommes. Ou que je sois d'une autre nation, d'un autre peuple, que je n'ai jamais entendu parler de la parole de Dieu, que je ne connaisse pas la loi de Dieu, je suis aussi sous la colère de Dieu, quelle que soit ma religion. Parce que Dieu s'est fait connaître dans la nature, et tout homme, Paul l'expose très bien dans Romains 1, tout homme a la possibilité de crier à Dieu, de chercher Dieu, de s'humilier devant Dieu. Mais au lieu de cela, les hommes se sont inventés des religions, toutes sortes de religions, plutôt que de chercher Dieu. On a vu ensemble ensuite que que Dieu, dans sa grâce, malgré le fait que tous les hommes sont pécheurs, Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils Jésus-Christ afin d'accomplir sa justice. En Jésus-Christ, à la croix, est accomplie la justice de Dieu. Le Fils de Dieu s'offrant lui-même en sacrifice pour nos péchés. Ainsi, Dieu, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, peut déclarer juste l'injuste et demeurer juste à cause du sacrifice de Christ. Ainsi, par la foi et seulement par la foi, tous peuvent être déclarés justes, pardonnés, rachetés, devenir enfants de Dieu. Pas par nos œuvres. Et on a vu la semaine dernière ensemble qu'à cause de ce sacrifice, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont fait le pas de passer par les eaux du baptême, de s'identifier avec la mort de Christ à la croix, chacun d'entre eux ont reçu une nouvelle identité. Une nouvelle identité nous a été donnée par la foi en Jésus-Christ. Alors que nous étions tous pécheurs, tous esclaves du péché. C'était notre identité, esclaves, prisonniers du péché. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, en son sacrifice à la croix, se sont vus donner une nouvelle identité. Nos fers ont été brisés et d'état d'esclaves, nous sommes devenus hommes et femmes libres en Jésus-Christ. Libres du péché, libres d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu comme des instruments de justice. Maintenant, le combat demeure, on l'a dit la semaine dernière. Tant et aussi longtemps que ce corps n'aura pas été glorifié comme le corps de Christ, lorsque je vais aller à sa rencontre, comme Jésus-Christ, avec un corps glorifié, le combat va demeurer jusqu'à la fin. Parce que cette nature pécheresse demeure. Et cependant, l'Esprit Saint m'a déjà été donné. L'Esprit Saint habite déjà en moi, en sorte que la transformation est déjà commencée. Et que je peux, par la grâce de Dieu, malgré toutes les fois où je vais tomber, toutes ces fois où je vais crier avec Paul, « Mais qui me délivrera de ce corps de mort? » Chaque fois, j'ai cette grâce de pouvoir me tourner vers Dieu, d'aller à la croix, de demander encore une fois pardon pour ce péché, et dire, « Seigneur, viens et par ton esprit, accorde-moi la grâce de marcher en homme libre du péché. » Jusqu'à la fin, afin déjà de commencer à glorifier Dieu. C'est le grand principe du renoncement au péché. Renoncer au fait que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais que nous sommes esclaves de Dieu pour la gloire de Dieu par son esprit. Ce matin, on termine la lettre aux Romains. Alors, je fais quelque chose, d'accord, parce que le premier message, on a vu les chapitres 1, 2, 3, le deuxième, 3 à 5, il y avait un chevauchement. Le troisième message, on a fait les chapitres 6 à 8. Si vous êtes familier avec Romains, voyez-y pas un échappatoire, mais je saute à 12. D'accord? Alors, on saute par-dessus les chapitres 9, 10 et 11. J'aimerais ça les prêcher. Il faudrait que je parte un dimanche plus tard. D'accord? Mais c'est volontaire. Donc, on s'en va tout de suite au chapitre 12 à 16. On va survoler ça ensemble ce matin. Les chapitres 9 à 11 sont très importants et extrêmement intéressants. C'est vraiment des chapitres que j'aime beaucoup. Il y a des points de doctrine très importants. Mais c'est comme si dans l'argument de Paul, dans son livre, c'est un peu un sous-point. Et donc, j'ai décidé d'aller tout de suite vers l'application, vers la fin de la lettre. Et on va voir ensemble les chapitres 12 à 16. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que cette courte série, jusqu'à dimanche, les trois autres sont déjà sur le site Internet. Vous pouvez aller les écouter, les downloader, les apporter en vacances. Moi, j'ai un iPod. Fait qu'hier, j'ai pris 10 minutes puis j'ai commencé à préparer mon iPod pour mes vacances. J'espère que vous faites ça. Hein? Un iPod, ça se prépare pour des vacances. C'est un accompagnateur. Surtout dans ce temps où c'est pas tout le monde qui aime lire. C'est génial, on a un iPod. Fait que j'ai 4 messages de Martin Lloyd-Jones à écouter qui sont déjà en place sur mon ordinateur. J'aimerais juste aller les mettre sur mon iPod. Je m'en cherche quelques autres. Je m'excuse. Mais vous pourrez faire ça avec la série, d'accord? Ça vous prend ça, c'est un must. Gravez-les, faites n'importe quoi, mais apportez ça en vacances, afin que Dieu puisse continuer son travail dans votre cœur. Mais j'espère, par la grâce de Dieu, que cette courte série va vous avoir donné le goût d'aller plonger les regards dans cette lettre, pour bien l'exposer 2 ans, au moins, sérieusement. Et peut-être que j'aurai cette joie-là un jour, d'exposer tranquillement Romains en 1 an et demi, 2 ans. Mais j'espère vous avoir donné la piqûre c'est une lettre qu'on doit méditer. Et rappelez-vous ce que Tyndale a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les chrétiens devraient la connaître par cœur. C'est ce que William Tyndale pensait. À défaut de ça, on peut déjà la lire souvent et puis la méditer. D'accord? Alors, on arrive dans les chapitres 12 à 16, et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on va voir les implications pratiques de l'Évangile ce matin à travers ça. Dans la pensée chrétienne, c'est très important ce que je vais vous dire là, parce qu'on arrive à la fin de la lettre. Dans la pensée chrétienne, la doctrine, la théologie vise toujours un changement de vie et de pensée. Tout ce qu'on voit, tout ce qui semble théorique, vise toujours un changement de vie et de pensée. Le christianisme est comme ça. C'est quelque chose qui part d'une compréhension, d'un message qui nous est donné, qui vient faire un bouleversement intérieur qui va produire ensuite un changement de vie, un changement de pensée. Et lorsque ce message est reçu et ne produit pas de changement de vie, de changement de pensée, en termes bibliques, simplement, il n'a pas été compris. Si tout ce que vous apprenez dans cette église ne bouleverse pas votre vie dans les faits, vos pensées, vos dispositions de cœur, soit que c'est qu'on n'enseigne vraiment pas la parole de Dieu, ou vous n'avez pas compris le message. Et vous devez aller dans la prière, supplier Dieu que par son esprit, il vienne appliquer sa parole à vos cœurs. Toujours dans la pensée chrétienne, la doctrine est importante, la théologie est importante, parce qu'elle vise un changement de vie et de pensée. Nous sommes sauvés par la foi seule, c'est vrai, mais pour vivre par la foi, pour marcher par la foi, pour prendre des décisions par la foi, pour marcher dans la sainteté par la foi, sachant que notre course ici-bas sur terre n'est qu'un passage, un moment, une vapeur, en préparation pour l'éternité. Lorsque Paul écrit que l'Évangile est une puissance de Dieu, écoutez bien ceci, il est convaincu que l'Évangile est puissant pour justifier devant Dieu tous ceux qui croient, c'est vrai, mais aussi pour amener tous ceux qui croient à marcher dans la justice de Dieu. L'Évangile est puissant pour justifier devant Dieu tous ceux qui croient et pour amener tous ceux qui croient à marcher dans la justice de Dieu. Alors, tournez avec moi dans Romains 12, verset 1, si ce n'est déjà fait. Je vais vous lire les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tout au long des 11 premiers chapitres, les 11 chapitres qui précèdent les versets 1 et 2, ce que Paul a fait, c'est qu'il a exposé les compassions de Dieu. Pendant 11 chapitres, c'est ça qu'il a fait. Il a décliné de toutes sortes de manières, il est revenu, il s'est répété, il a réfléchi sur ses implications, sur ce que Dieu nous a acquis à travers le sacrifice de Christ, mais il a exposé les compassions de Dieu pendant 11 chapitres. En conclusion, Paul nous dit que ce sacrifice, cet amour, cette grâce, cette compassion de Dieu pour nous pardonner nos péchés, pour nous donner une vie nouvelle, toutes ces compassions amènent Paul à nous exhorter fermement. En d'autres mots, voici ce que Paul dit. Si tu as saisi les compassions de Dieu, si tu as saisi que tu ne pouvais te sauver toi-même, si tu as saisi que tu étais sous la colère de Dieu comme le reste des hommes, si tu as saisi que Christ s'est offert en sacrifice à ta place, si tu as saisi que Dieu t'a adopté en Jésus-Christ, si tu as saisi que son esprit habite en toi, si tu as saisi que toute chose concourt à présent à ton bien, toutes les épreuves de ta vie concourent à ton bien. Si tu as saisi que rien ne pourra te séparer de Dieu, pour l'éternité, rien dans cette vie ne pourra te séparer de Dieu. Si tu as saisi que le meilleur reste à venir lorsque nous serons glorifiés avec lui. Si tu as saisi ces choses, alors il n'y a qu'une seule réponse raisonnable. Tu prends ta vie, ton ego, tes projets, ton argent, ton temps, tes pensées, les années qu'il te reste ici-bas, ta retraite, tes REER, ton agenda, ton orgueil, ton amour propre, ton époux, ton épouse, tes enfants, la force que Dieu t'a donnée. Tu prends toutes ces choses et tu places tout cela sur l'autel de Dieu. Tu donnes tout cela à Dieu pour le servir jusqu'à ton dernier souffle, pour lui dire merci, merci, merci Père, pour tes compassions envers moi. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux en sacrifice pour nos péchés. Depuis la venue de Jésus-Christ, le sacrifice d'animaux est inutile. Un sacrifice parfait est venu accomplir toute la loi. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Nous n'avons plus à offrir des animaux en sacrifice. En fait, nous n'avons plus à offrir de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Parce qu'en Jésus-Christ, le sacrifice parfait a été accompli. On ne peut plus offrir de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Un seul, Christ à la croix. Maintenant, la seule réponse raisonnable, puisqu'on ne peut plus offrir de sacrifice pour le pardon de nos péchés, eh bien, c'est parce que nous avons été pardonnés. Et seulement parce que nous avons été pardonnés, nous allons offrir nos vies en sacrifice d'action de grâce. Nos corps, notre être entier, pour dire merci à Dieu. Non pas pour être pardonné, mais parce qu'on a été pardonné. C'est le seul culte raisonnable de notre part. Le croyant de l'Ancien Testament allait au temple pour offrir un culte à Dieu. Ça se passait dans un endroit, une petite boîte, un bâtiment. Il allait là pour offrir un culte à Dieu, en lui donnant une offrande. C'était très limité. C'est un moment où tu rentres dans cette bâtisse, tu offres un sacrifice. C'était un culte raisonnable devant ce qui avait été révélé jusque-là. Mais une adoration aussi limitée dans le temps et dans l'espace ne serait pas raisonnable pour nous devant les compassions que Dieu a manifestées à notre égard depuis la venue de Jésus-Christ. Limiter notre adoration à quelques heures passées dans le temple ou dans l'église ne serait pas raisonnable. Ce ne serait pas raisonnable lorsqu'on considère les compassions de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Le seul culte raisonnable devant ce que Christ a fait pour nous est de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alors lorsque l'apôtre Paul est en train de dire qu'on doit offrir nos corps, il est en train de dire qu'on doit tout lui donner. Offrir nos corps parle de tout temps, en tout temps, 24 heures sur 24, où que je sois, quoi que je sois en train de faire, je suis en train d'adorer Dieu. Toute ma vie, tout ce que je fais est offert à Dieu comme un acte d'adoration. Et cela a plein de bon sens lorsqu'on considère, lorsqu'on réalise que depuis la venue de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu n'est plus premièrement dans le temple à Jérusalem, mais l'Esprit de Dieu est dans nos corps. Ils sont devenus le temple du Saint-Esprit. On lit dans 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas, et c'est Paul qui parle ici, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. À tous ceux qui ont cru, tous ceux qui se sont fait baptiser en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et nos corps sont devenus temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu par votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ainsi, de la même manière que dans l'Ancien Testament, le temple devait être entièrement consacré. La pire chose que tu pouvais faire comme offense à Dieu, c'est de prendre des idoles païennes et de venir les installer dans le temple. Et lisez l'Ancien Testament, vous allez découvrir qu'Israël l'a fait. Israël l'a fait. La pire offense que tu pouvais faire à Dieu, c'est de prendre cet endroit que Dieu avait choisi, où l'Esprit de Dieu était, le regard de Dieu était constamment là, et de prendre des idoles et de venir les placer à l'intérieur du temple. Le temple était consacré à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce sont nos corps, ce sont nos membres, c'est notre esprit, notre cœur, notre pensée, tout ce que nous sommes, qui est ce temple du Saint-Esprit. Le seul culte raisonnable, c'est que le temple soit entièrement consacré et que nos corps soient offerts comme un sacrifice raisonnable. C'est le seul culte qui est raisonnable d'offrir à Dieu. Ainsi, si j'ai saisi les compassions de Dieu, si j'ai compris le message de l'Évangile et la grâce de Dieu qui est venue sauver des pécheurs qui étaient incapables de se sauver par eux-mêmes, qui ne cherchaient pas Dieu, qui méprisaient Dieu, si j'ai saisi ces choses, la seule réponse raisonnable, c'est d'offrir mon corps en entier à Dieu. Toutes mes pensées, toutes mes actions, chaque instant de ma vie, comme un acte d'adoration à Dieu, quelles que soient mes activités, quoi que ce soit que je suis en train de faire, que je sois en train de glorifier Dieu. Maintenant, le prochain verset est extrêmement important. Le prochain verset est important pour que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous à présent? Voyez-vous, le service de Dieu ne se résume pas à une liste de choses à faire. Le service de Dieu ne se résume pas à une liste de choses à faire. Comme si Paul serait en train de dire, « Maintenant que tu appartiens à Dieu, tu lui donnes ton corps et voici la liste des choses que tu as à faire. Je vais t'expliquer tes devoirs chrétiens et si tu fais tes choses-là, tu as rempli ton service à Dieu. » Comme si Paul était en train de dire, « Avant, tu étais esclave du péché, alors tu avais ta to-do list. » Comprenez ça? Avant, tu étais esclave du péché, tu avais ta to-do list comme esclave du péché. Orgueil, débauche, parler dans le dos des autres, tromper. Tu pouvais cocher chaque jour que tu remplissais bien ta to-do list comme esclave du péché. Et c'est comme si Paul est en train de dire, à présent que tu es libre du péché, que tu es libre de servir Dieu, voici ta to-do list pour servir Dieu. Par exemple, aimer, donner, pardonner. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le service pour Dieu n'est pas une to-do list à faire. Et c'est très important de comprendre le prochain verset pour pouvoir saisir toute la suite de la lettre de Romains. Et en fait, je vous dirais pour comprendre toute la marche chrétienne. La vie chrétienne, la marche chrétienne n'est pas une liste de choses à faire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu ne veut pas simplement que nous remplissions une liste de choses à faire. Ce n'est pas cela que Dieu désire. Dieu ne cherche pas que des changements de comportement extérieur. En fait, Jésus nous a dit dans l'Évangile de Jean ce que le Père demande. Et ça ne parle pas de choses extérieures à faire. Le Père demande des adorateurs en esprit et en vérité. Le Père demande et cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Non pas des gens qui suivent une liste de choses spirituelles à faire et qui peuvent chaque soir cocher leur liste et se coucher le cœur en paix, la conscience en paix, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire comme bons petits chrétiens. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps à répéter. Si l'outil qu'on met entre vos mains avec les deux petits signets, vous voyez ça juste comme les cases qui sont à cocher. D'abord, vous ne réussirez pas. Si vous réussissez, vous n'en tirerez pas ce que Dieu veut que vous en tiriez. Ce n'est pas ça le christianisme. Ces signets-là, c'est juste une invitation à venir rencontrer Dieu. Ce n'est que cela. Une invitation à venir rencontrer votre Dieu. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des gens qui vont respecter une liste de choses à faire. C'est fondamental de saisir cela. Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs. Ce n'est pas l'extérieur qui compte premièrement, mais l'intérieur. C'est ce qui est en train de se passer à l'intérieur dans notre manière de penser, notre manière de voir les choses, de voir la vie, d'évaluer les choses, de juger entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Regardez avec moi encore une fois le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Servir Dieu va demander de penser autrement que le monde. Le reste va découler. Offrir nos corps pour servir Dieu va demander, premièrement, un changement de pensée. Il va nous falloir penser autrement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je m'adresse aux jeunes un instant. Lorsque je prends du temps avec mes enfants, et ceux qui sont ici, vous êtes tous des adultes, d'accord? Bastien a 8 ans, puis Jade a 10 ans. Ce que je cherche à leur communiquer, et le jour où ils vont le saisir, ce n'est pas moi qui vais l'avoir communiqué, mais c'est ce que je cherche à leur communiquer de tout mon cœur, priant que l'Esprit-Saint vienne ouvrir leurs yeux. C'est ce moment où Bastien et Jade vont réaliser, par la grâce de Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui le fait, qu'ils n'ont pas à imiter leurs parents pour satisfaire Dieu, mais qu'ils ont à aimer Dieu de tout leur cœur pour satisfaire Dieu. Et après ça, ça va devenir facile, non seulement d'imiter leurs parents, mais de faire tellement mieux que leurs parents. Et quand vous passez cette étape-là par la puissance de Dieu, c'est une révélation divine, les jeunes, lorsque vous passez ce cap-là. Vous n'êtes plus en train de suivre la foi de vos parents. Vous êtes en train de suivre votre Dieu. Et vos parents renieraient Dieu. Renieraient Dieu. Vous continueriez à suivre Christ jusqu'à la mort. Parce qu'il est devenu votre Dieu. L'amour de votre vie. Votre passion. Et c'est un miracle. Mais c'est ce qu'on doit chercher de tout notre cœur. Servir Dieu va demander de penser autrement que le monde. Offrir nos corps va demander de premièrement, un changement de pensée. Et regardez bien comment la lettre aux Romains se tient très, très bien. Paul est très conséquent avec lui-même. Il tient le même message depuis le début de sa lettre. Revenez avec moi dans Romains 1, s'il vous plaît. Tournez avec moi au chapitre 1. C'est très important pour comprendre ce que Paul est en train de dire ici. Rappelez-vous ce qu'on a vu alors dans Romains 1, si vous étiez avec nous. Paul nous avait dit que tous les hommes auraient pu connaître Dieu, au moins un peu par la nature, déjà saisir que Dieu existe, que Dieu est là, qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un qui a pensé cet univers, qu'il a conçu, et que ça nous parle des gloires de Dieu, que les hommes auraient pu au moins chercher Dieu. Maintenant, regardez avec moi les versets 18 à 22. Et lisez-les, s'il vous plaît, dans la Bible. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont devenus fous parce que Dieu les a livrés à eux-mêmes. C'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 12, 2, de ne pas se conformer au siècle présent. De ne pas penser comme le siècle présent. Les hommes ont rejeté Dieu, alors Dieu les a livrés à leurs propres pensées. Et les hommes se sont regardés dans le miroir, se sont écoutés réfléchir. Les proverbes disent que l'insensé se plaît dans la manifestation de ses pensées. Voilà ce que Dieu a fait. Il a livré l'homme à lui-même. Les hommes se sont écoutés réfléchir, puis ont dit, « Wow, hey, c'est fort. C'est bon, ça. Mes amis, que je suis brillant. » Et à partir de là, ils se sont donné un système de valeurs. Ils se sont donné des priorités. Ils ont fait des choix dans la vie. Comme des êtres qui ont été livrés à eux-mêmes. Livrés à leur folie. Ils ont développé tout un système de valeurs qui est fondé sur l'égoïsme, l'orgueil, le péché, qui dicte leurs choix, leurs actions. Et nous ne sommes pas différents d'eux, d'accord? Je ne suis pas ici pour qu'on se pète les bretelles et qu'on dise « on est mieux que le monde ». Ce n'est pas ça l'idée du tout. Nous ne sommes pas différents d'eux. N'oublions pas que nous étions exactement semblables, identiques à eux. Nous étions des leurs, pensant et agissant de la même manière. Voyez-vous, frères et sœurs, le changement que Dieu est en train d'opérer en tous ceux qui ont cru en son sacrifice et qui se sont fait baptiser en Jésus-Christ, c'est un changement en profondeur. C'est pas une liste de choses à faire, c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de voir. C'est une œuvre profonde, non pas une œuvre superficielle que Dieu veut faire, comme si on avait une liste de devoirs chrétiens à accomplir. Il veut faire de nous une nouvelle création, qui voit et pense autrement que le monde. Alors bien sûr, Paul va devenir très pratique après. Si vous lisez après la matinée, parce que ce matin, je vais vous lire juste quelques versets, mais si vous lisez tous les chapitres 12, 13, 14, 15, 16, vous allez voir que Paul devient très, très, très pratique. Il donne toutes sortes de directives très pratiques. Mais tout ce qu'il exhorte à faire demande une transformation profonde. Autrement, c'est impossible de l'accomplir. Ça doit être les fruits d'une œuvre spirituelle merveilleuse dans nos cœurs. Écoutez, Paul va nous dire des choses comme « préférez l'humilité à la gloire ». C'est parce que je pense que c'est les Olympiques qui s'en viennent, c'est ça? C'est fondé sur un système complètement différent. C'est le contraire. C'est pas la participation qui compte. Et je suis pas en train de dire que j'aime pas les Olympiques. Mais il y a un principe derrière ça qui régit tout cela, qui est le principe de ce monde. Il va nous dire, sers dans l'Église, peu importe ce que le Seigneur veut que tu fasses. N'importe quoi. N'aspire pas aux choses les plus élevées. On te demande de faire quelque chose, ouais, mais je pourrais faire tellement mieux que ça. Aucune importance. Peut-être si Dieu t'appelle à ça, il va te diriger vers ça, c'est correct. Mais humblement, sers, fais n'importe quoi dans l'Église. Sers, tout simplement. Il va dire, aime les frères au point de mettre de côté des libertés. Nous ne sommes plus sous la loi. On a toutes sortes de libertés en Jésus-Christ. Mais si tu vois que c'est un objet de scandale pour ton frère, ton premier réflexe est évident. Tu le mets de côté. Tu le mets de côté pour ton frère, par amour. Ce n'est pas vraiment la pensée de l'époque. Aime tes ennemis. Pas seulement les respecter. Aime-les profondément dans ton cœur. Chéris-les. Cherche comment tu pourrais leur faire du bien. Les ennemis, les gens qui te font du mal, qui te persécutent, aime-les dans ton cœur. Pas juste les respecter, qu'ils soient chers à ton cœur. C'est ça, aimer, hein? Qu'ils soient chers à ton cœur. Êtes-vous capable de trouver un collègue de travail? La meilleure affaire qui pourrait vous arriver, c'est qu'il se fasse virer. Mais Christ vous dit, c'est celui-là que vous devez aimer le plus partout au travail. Cherchez à lui faire du bien, le chérir, le porter dans vos prières. C'est ça que Paul va demander. Il va dire, soyez soumis au gouvernement, aux policiers, aux autorités. Voyez-les comme mis en place par Dieu. Ah, mais Seigneur, il y a tellement de corruption. Comment tu veux même qu'on les respecte? Non, 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 c'est Dieu qui les a mis en place. Quand Paul a écrit ça, il était dans l'Empire romain. Vous voulez voir de la corruption? Allez lire sur l'Empire romain. Quand Paul a écrit ça, il était sous le régime de l'Empire romain. Il leur dit, l'épée qui a été mise entre leurs mains, c'est Dieu qui l'a mis là. Nous autres, ils n'ont même pas d'épée. Là. Peut-être des tasers, là, mais pas d'épée. Mais le taser qui est entre les mains, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est ce que Paul dit. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Un chrétien qui va parler en mal, qui va parler avec mépris des autorités, c'est un chrétien qui a besoin d'être transformé dans son cœur, dans ses pensées. Ça ne nous empêche pas d'avoir du discernement. Mais si on est appelé à aimer nos ennemis, il n'y a rien là. Regardez avec moi les versets 9 à 15. Essayez de mesurer ça. Puis si vous êtes familier avec Matthieu, vous allez voir à quel point ça ressemble au sermon sur la montagne. C'est fou. Versets 9 à 15. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. » Je vais être honnête avec vous, souvent, je l'aime le mal. Ah, pas toutes les formes de mal. Mais souvent, je surprends ma chair à aimer le mal. C'est pas dans ma nature. C'est pas dans ma nature d'avoir le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Pas de la politesse. Pas de la politesse. Les païens sont capables de faire ça. C'est pas un problème, la politesse. Tu veux pas avoir de problème, sois poli. Facile, ça. Ça demande un tout petit peu d'intelligence pour savoir que tu te sauves des problèmes si tu es poli. C'est pas de ça qu'il est question ici. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. « Oh, mais Seigneur, ce frère-là, il me tombe tellement ses nerfs. Mais aime-le, chéris-le dans ton cœur. Oh, mais il me fait du mal. Il me déçoit, il me juge, il me critique. Il ne m'accepte pas, il ne m'encourage pas. Plein d'affection. Les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance. Soyez sensibles à tout ce que vous pouvez faire pour manifester cette attention, cet amour, cette charité constamment. » Ayez du zèle, non de la paresse. Moi, je suis paresseux. Qui ici n'est pas paresseux? Il y en a quelques-uns, je pourrais vous en nommer, mais... Moi, je vous le dis, je suis paresseux. Vraiment, je suis paresseux. Les vacances s'en viennent et... Une fois, je me force pour ouvrir ma Bible. C'est vrai, là, ce que je vous dis, là. Avec les années, Dieu me transforme et j'y prends plaisir. Mais je suis paresseux, profondément paresseux. Je vais lire n'importe quel livre, à part celui que je dois lire. Je comprends que pour bien des gens, ce n'est pas de la paresse, là, lire, mais moi, c'est ça. C'est contre ma nature. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Pensez un peu ce que ça veut dire, ça. Depuis que je suis tout petit, on m'apprend, tu te réjouis quand tu reçois le cadeau. Pas en espérance. Quand tu reçois le cadeau, tu le déballes puis tu te réjouis. Quand tu trouves l'amour de ta vie, tu te réjouis. Quand tu décroches un poste, tu te réjouis. Quand tu reçois ton diplôme, tu te réjouis. C'est ça? Non? Non, c'est pas ça. En espérance. En espérance. J'ai pas vu Dieu, j'attrape un cancer, puis je dis, Seigneur, toute chose concourt à mon bien, ça va m'aider à devenir davantage à l'image de Christ. Par ton esprit, Seigneur, je suis dans la joie. C'est vraiment, vraiment malade. Non? C'est pas la pensée du monde, vous comprenez? Se réjouir en espérance, c'est ne pas voir, ne pas posséder, ne pas recevoir le cadeau et se réjouir déjà par la foi de ce que Christ est en train de me préparer une place au ciel. Mais je ne l'ai pas vu la place, puis c'est long, puis c'est fatigant, puis c'est difficile, puis il y a des épreuves. Mais en espérance, par la puissance de l'Esprit-Saint, j'apprends à me réjouir. J'espère, je ne l'ai pas. Tant que tu te réjouis en espérance, parce que tu ne l'as pas. C'est par la foi. Oh, ça prend l'Esprit-Saint pour faire ça, je vous le dis. Ça prend une transformation en profondeur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Je parlais avec un frère cette semaine, puis je pensais à Jésus qui se faisait arracher les poils de la barbe, tu sais. Je sais pas, mais à un moment donné, tu envoies une taloche. Ça fait mal! Lâche-moi! Non? C'est le Fils de Dieu. Tiens, un petit peu de respect. Soyez patient dans l'affliction. Pourvoyez aux besoins des saints. Ça parle d'argent, ça. C'est vrai. Exercez l'hospitalité. Oui, mais Seigneur, si tu savais le rythme dans notre société, oublie ça, Seigneur. Exercez de l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais depuis que je suis petit, qu'on me dit, il faut que tu aies au maximum de ton potentiel. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. ne soyez point sages à vos propres yeux. Aie confiance en toi. Non, n'aie pas confiance en toi. Tourne-toi vers la parole. T'es pas sage, t'es pécheur. En fait, toute la fin de la lettre, comme je l'ai mentionné tantôt, ressemble beaucoup au sermon sur la montagne. Énormément. Énormément. Je pense que Paul est en train de nous expliquer comment vivre le sermon sur la montagne. C'est par la puissance de l'Évangile. C'est ça que je crois. Heureux, heureux, heureux ceux qui ont connu la puissance de l'Évangile pour pouvoir vivre ces choses. Je ne crois pas que la liste ici est complète. Si vous lisez Romains 12, 13, 14, 15, 16, la liste n'est pas complète de tout ce que nous avons à faire. Pas du tout. Ce n'est pas une liste exhaustive. En fait, je crois vraiment que Paul est simplement en train de nous donner toutes sortes d'exemples. Toutes sortes d'exemples de fruits qui vont jaillir d'une nouvelle manière de penser. C'est ça que Paul est en train de faire. Il est en train de dire, lorsque vous êtes renouvelé, transformé par le renouvellement de votre intelligence, vous apprenez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tout d'un coup, il y a toutes sortes de lumières qui vont vous venir, puis vous allez voir comment penser comme Dieu. Et là, vous allez discerner, contrairement à la pensée du siècle présent, ce qui est bon de faire dans chaque circonstance. Vous allez discerner ces choses. Lorsqu'on est transformé par le renouvellement de notre intelligence, un nouveau discernement nous est donné. Vraiment, c'est ça qui se produit. Nous apprenons à voir la vie et les choix que nous avons à faire comme Dieu les voit, comme Dieu pense. Il y a un discernement nouveau qui vient en nous, qui se développe en nous. Avant, nous pensions que la bonne chose à faire, par exemple, c'était de se défendre. Aujourd'hui, nous préférons aimer celui qui nous méprise. L'éternité devient tellement plus importante que le présent que nous apprenons à nous réjouir en espérance, à nous investir dans le royaume, à nous attacher aux choses d'en haut, à accepter joyeusement d'être méprisés pour le nom de Dieu. Nous prenons plaisir à servir les frères et sœurs, même si personne ne le remarque. Ça devient plus important. Et on pourrait continuer comme ça sans cesse. Plein d'exemples. Paul ne donne pas une liste exhaustive ici. Il veut nous donner des idées, des exemples, du genre de fruit qui va sortir d'un nouveau discernement, d'une nouvelle manière de voir les choses, lorsque nous commençons à penser comme Dieu. Ce renouvellement de l'intelligence, cette transformation, est une œuvre magnifique que Dieu veut faire dans nos vies et qu'il fait dans nos vies. C'est cette transformation par laquelle le Saint-Esprit nous amène à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est vraiment de ça dont il est question ici. En d'autres termes, c'est de notre sanctification dont il est question ici. Le mot lui-même qui est utilisé ici dans Romains 12, lorsqu'il est mentionné « transformé par le renouvellement de l'intelligence », est utilisé à ma connaissance seulement 4 fois dans le Nouveau Testament. On le trouve dans Matthieu 17, 2. Tournez avec moi, je vais vous faire tourner dans 2 passages. Matthieu 17, 2. Et en vous faisant lire ces 2 passages, je veux vous donner une idée de l'ampleur et de la beauté de l'œuvre que l'Esprit-Saint est en train d'accomplir en nous. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de la transfiguration de Christ. Matthieu 17, 7, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Parlant de Jésus, Matthieu dit, « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Voyez-vous, l'œuvre que Dieu veut faire en nous, c'est une œuvre glorieuse, et il l'a entreprise à partir du moment où l'Esprit-Saint est venu faire son habitation en nous. C'est une œuvre glorieuse qui dépasse tout ce qu'on pourrait concevoir comme transformation. Ça ne peut pas se résumer à un to-do list. C'est une transformation intérieure qui va produire une multitude de fruits qu'on ne pourrait même pas concevoir parce qu'ils vont sortir d'un nouveau discernement. Le mot est utilisé, ce même mot-là est utilisé aussi dans 2 Corinthiens 3. Tournez aussi avec moi dans 2 Corinthiens 3. Et je vous dirais que ce passage-là nous éclaire encore plus parce qu'on se rapproche de ce que l'Esprit est en train de faire en nous. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'on saisit l'Évangile, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est le même mot qu'il y a là pour transformation. L'œuvre que l'Esprit Saint a commencé à faire en nous à partir du moment où nous avons saisi les compassions de Dieu, que le voile a été enlevé de notre cœur, que l'Esprit Saint est venu habiter en nous, c'est cette œuvre de transformation où la gloire de Christ brille sur notre visage et nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est une œuvre spirituelle par laquelle nous sommes transformés à l'image de Christ. C'est une œuvre en profondeur où nous apprenons à penser autrement, à voir autrement, à juger autrement. Maintenant, je vous ai fait tourner dans ces deux passages parce que je voulais vous montrer que cette œuvre, c'est premièrement une œuvre spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui fait ça premièrement. Si ça fait quelques années que vous marchez avec le Seigneur, vous avez parfois ou souvent le soupir qui vient de dire « Mais Seigneur, c'est tellement long cette transformation. » Un frère qui me partageait cette semaine qui disait « Yannick, ça fait 25 ans que je suis au Seigneur. » Puis il me semble que le travail est encore en surface. Les fruits sont tellement petits. Je crois que cette humilité-là est aussi un fruit de l'Esprit. Parce qu'en même temps, avec lui, on était capable de se réjouir de tout ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Mais je vous ai fait tourner dans ces passages pour vous aider à voir la beauté, la majesté de cette œuvre de transformation que Dieu veut faire en nous, où il veut vraiment nous amener à l'image de la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas une religion avec des devoirs à faire, c'est une nouvelle création. Et en même temps, je voulais que vous voyiez que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Soyez patients. Soyez patients. Dieu s'est engagé. Il a mis son nom en jeu. Littéralement. Dieu a mis son nom en jeu. Et il s'est engagé à terminer ce qu'il a commencé en vous. Soyez patients, ayez la foi. Regardez à Christ. Soyez patients, ayez confiance en Dieu. C'est une œuvre de l'Esprit. Et rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait déjà. Dieu s'est engagé à le faire et il est fidèle. En même temps, c'est évident dans le texte, on doit le comprendre que si le christianisme n'est pas une liste de choses à faire, que c'est une transformation intérieure, on a un rôle à jouer aussi là-dedans. C'est évident juste par ce que Paul dit ici. Paul est en train de dire, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Il nous donne des directives. « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors, cette transformation-là est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre de l'Esprit dans laquelle nous sommes appelés à collaborer. On a un rôle à jouer. Si j'ai des directives qui me sont données, j'ai un rôle à jouer dans cette transformation-là. Quelle est ma part à jouer dans cette transformation? Quelle est ma part à jouer? Quelle est ta part à jouer? Pour que toutes ces choses qu'on voit après, cette humilité, cet amour, ce don de soi, cet amour pour nos ennemis, deviennent de plus en plus des fruits évidents dans notre vie. Et je vous donne 5 éléments pratiques. Premièrement, on l'a vu au verset 1. Prenez la décision d'offrir toute votre vie à Dieu. Parfois, dans la vie chrétienne, il y a des péchés qui nous fatiguent. Écoutez bien ceci. Parfois, il y a des péchés qui nous fatiguent. Et bien honnêtement, on est humilié par ces péchés-là, mais on décide de s'occuper de ça parce qu'ils nous fatiguent. Allez jamais seulement après un péché. Revenez chaque matin au cœur entier, à votre vie entière. Travaillez jamais seulement sur une chose qui vous fatigue pour être confortable puis libéré de quelque chose qui vous rend inconfortable. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Mais chaque matin, consacrez à Dieu le temple au complet. Chaque matin, dites au Seigneur, viens enlever toutes les idoles du temple, Seigneur. Je t'offre tout mon corps, toutes mes pensées, toute cette journée, toutes mes activités, et revenez constamment à cette décision. Alors, premièrement, offrez toute votre vie à Dieu. Pas une plage horaire, pas un moment, pas un péché qui vous rend inconfortable. Toute votre vie à Dieu. C'est le verset 1. Deuxièmement, refusez de vous conformer. Refusez de vous conformer au siècle présent. Le chrétien est appelé à aller dans la vie à contre-culture constamment. Ce n'est pas tout qui est mauvais, mais nous avons un discernement nouveau. Et ça me prend la décision et la force que je vais chercher en Jésus-Christ de refuser de me conformer. Je dois user constamment de ce discernement qui vient de l'Esprit-Saint, où je pars, je commence mes journées en disant, je ne me conformerai pas à la pensée de ce siècle. Seigneur, je te prie de me donner du discernement tout au long de la journée pour voir comment elle s'exprime, et je vais refuser de m'y conformer. Je n'appartiens plus à cette vie. Je pensais comme eux, j'étais esclave du péché. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, je refuse de me conformer. C'est la deuxième chose. Premièrement, offrir toute ma vie. Deuxièmement, prendre la décision que vous allez être à contre-courant jusqu'à la fin. Que vous allez constamment devoir prendre la décision de refuser de vous conformer. Troisièmement, méditer la vie de Jésus-Christ. Méditez sur la vie de Christ. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Paul revient constamment à Jésus-Christ, constamment à Christ, à la croix, au choix qu'il a fait. Vous devez méditer ces choses et revenir constamment à réaliser que ce Dieu extraordinaire qui aurait pu décider de rejeter la terre, de rejeter les hommes, a décidé d'être encore patient, encore bon, revenir encore. Et c'est en méditant ces choses, en revenant à l'amour de Christ, que Dieu vient nous transformer à son image. Ça veut dire lire la parole de Dieu, ça, les frères. J'ai deux personnes cette semaine qui m'ont dit, « Moi, je ne suis pas un lecteur. J'aime pas lire. Ça ne me dérange pas. Laisse-moi te le présenter ainsi. Tu as un seul souvenir de ton Père céleste, puis c'est une lettre. Est-ce que tu vas apprendre à lire pour aller le rencontrer? Si ça avait été une vidéo, ça serait une vidéo. Si ça avait été une cassette, ça aurait été une cassette. Tu as un seul souvenir, une seule communication par ton Père céleste. C'est une lettre. Alors, ça ne me dérange pas que tu n'aimes pas lire. Tu n'as pas besoin d'avoir une bibliothèque complète de livres. Tu as besoin d'être passionné d'une seule lettre dans ta vie. Si c'est le seul livre dans ta bibliothèque, gloire à Dieu. Et d'y plonger les regards. Et d'y plonger les regards. Et d'y plonger les regards. Et je crois qu'il y a une grâce extraordinaire du fait que Dieu l'a mis sur papier, parce qu'on est lent à comprendre, et c'est ça la méditation, c'est d'arriver dans mon verset, puis de rester sur ce verset-là, puis de dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être transformé par le renouvellement de l'intelligence? L'audio, c'est fâcheux, hein? Parce que ça continue à avancer, puis là, tes idées partent ailleurs, puis là, tu as perdu le fil. C'est merveilleux, l'écrit. Parce qu'on y reste. Il ne continue pas à avancer si je ne continue pas à avancer. Il n'est pas rendu au prochain verset si moi, je ne suis pas rendu là. Et je m'arrête et je reste là. Et je médite la parole de Dieu. Mais en plus, on vit à une époque absolument extraordinaire où on peut avoir la Bible sur CD, sur iPod, sur n'importe quoi, sur MP3. Méditez la vie de Christ, l'œuvre de Christ, la parole de Dieu. Imprégnez-vous de ces choses. Écoutez des messages. Réécoutez des messages. C'est très rare que j'écoute un message une seule fois. Moi, vous me voyez prêcher, fait que vous vous dites, bon, ben Yannick, il écoute Norman une semaine sur deux, il prêche l'autre semaine sur deux. Je vous dirais, en moyenne, j'écoute 2 à 4 messages par semaine, en plus de celui que je prépare. Et tous ceux-là, je les écoute 2, 3 fois chacun. J'écoute John Piper, Martin Lloyd-Jones, Mark Dever, C.J. Mahaney, John MacArthur, Richard Roule. Et je les repasse, et je les repasse, et je les repasse. Toutes les ressources sont là pour aller méditer. Offrir toute ma vie, refuser de me conformer, aller méditer la vie de Christ. Il faut que ça devienne l'objet de votre passion, les frères et sœurs. Il le faut. Pour que vous soyez transformés à l'image de la stature parfaite de Christ. Priez pour devenir humble. Si vous lisez aujourd'hui Romains 12, 13, 14, vous allez voir, c'est l'humilité, l'humilité, l'humilité. Votre pire ennemi, c'est vous-même et il s'exprime par votre orgueil. C'est mon pire ennemi. Toute la semaine, le Seigneur n'a pas arrêté de me répéter, tu es orgueilleux, Yannick. Je vous le dis. C'est humiliant de voir ces pensées, ces manifestations d'orgueil en moi. Et c'est votre pire ennemi. Priez pour devenir humble. Recherchez l'humilité. C'est ce qui va vous permettre de grandir dans votre foi. C'est ce qui va faire que vous allez être constamment à l'écoute. À l'écoute de ce que Dieu veut vous dire. À l'écoute de ce que l'Esprit est en train de vous dire. À l'écoute de ce qu'un frère vous apporte parce que c'est Dieu qui est en train de parler à travers ça. De ce que votre épouse, votre époux a à vous dire. C'est l'humilité qui va être la clé. Et c'est un des plus beaux fruits de l'Esprit. Et enfin, dernièrement, alors offrez toute votre vie, refusez de vous conformer, méditez sur la vie de Jésus, sur la vie d'homme de Dieu, écoutez des messages, lisez sur la vie d'homme de Dieu qui ont saisi des choses en Jésus-Christ, de femme de Dieu. Priez pour devenir humble, recherchez l'humilité, et dernièrement, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés et que ce sacrifice est valable pour vous déclarer juste devant Dieu et vous ouvrir les portes du ciel, vous devez croire que l'Évangile est une puissance de Dieu pour vous transformer et vous amener à l'image de la stature parfaite de Christ. Croyez en Dieu, soyez patient. Il est en train de faire une belle œuvre. Et chaque fois que vous allez crier avec Paul, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Revenez à la croix. Forcez pas plus fort. Essayez pas par vos propres forces. Revenez à la croix. Écoutez encore une fois le message de la croix. T'es pécheur, mon Yannick. Tu n'y arriveras pas par toi-même. De toute façon, le ciel t'est acquis par la grâce. Mais je veux te transformer, mon vieux, puis je veux l'avoir, ta sanctification. Et c'est moi qui vais le faire par mon esprit en toi. Écoutez encore le message de la croix. Demandez pardon à Dieu. Laissez le travail de culpabilité qui vient de Dieu, bien placé à la croix, faire son œuvre dans votre cœur pour produire une profonde repentance. Une belle repentance. Et retournez encore une fois à la résurrection de Jésus-Christ, à la puissance qui a été manifestée, pour faire confiance que l'Esprit-Saint va terminer l'œuvre qu'il a commencée en vous. Amen. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en elle est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes tous pécheurs. Chacun d'entre nous dans cette salle, tous sont pécheurs. Et si ce n'était pour le sacrifice de Jésus-Christ, nous serions tous aussi sous ta colère, Seigneur. Sous ta juste et sainte colère contre une créature, une création qui méprise son Créateur, qui rejette son Créateur, qui ne veut pas entendre les appels de ton amour et de ta miséricorde. Mais dans ta grâce, ô Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu n'es pas un homme pour nous abandonner, parce que tu es Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui est venu s'offrir en sacrifice sur la croix pour nos péchés. Et chose impossible aux pécheurs, bien par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être déclarés juste, justifié, libéré du péché. Sois béni, Seigneur. C'est mon assurance, Seigneur. C'est mon espérance. C'est ce qui m'aide à espérer fermement que lorsque je franchirai le rideau de la mort, tu vas m'accueillir les bras grands ouverts. Et je veux croire, Seigneur, que tu n'es pas seulement puissant pour me déclarer juste, mais que tu es puissant et que ton évangile est puissant pour faire de moi un juste dans ma marche chrétienne. Par le renouvellement, la transformation qu'apporte le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, je m'engage devant mes frères et sœurs, Seigneur. Je m'engage encore une fois à t'offrir mon corps, mes pensées, mes actions, chaque instant, Seigneur, à ne pas vivre un christianisme du dimanche, un christianisme de plage horaire, mais à vivre pour Christ entièrement, dans toutes mes pensées, dans tous mes loisirs, pendant mes vacances, dans mes moments de repos comme au travail, dans mes heures de travail, dans les épreuves que tu vas pourvoir pour ma sanctification. Je m'engage, Père, à ne pas me conformer au siècle présent, mais à apprendre à la lumière de ta parole, à discerner la pensée de ce siècle, pour marcher non comme un fils du diable, mais comme un enfant de lumière, par ta grâce, Seigneur. Je m'engage à prendre du temps dans ta parole pour t'écouter me parler de Jésus, de sa croix, de son sacrifice, des sentiments qui l'animaient alors qu'il se dirigeait à la croix, qu'on le méprisait, qu'il savait qu'il s'écrierait, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je m'engage, Seigneur, à méditer ta parole, à la chérir, à méditer ta lettre, mon Père. Je m'engage, Seigneur, à chercher l'humilité, à prendre plaisir non pas aux choses élevées, mais à écouter, à être enseigné, à être disponible constamment, à me plaire dans les petites choses, Seigneur, simplement pour te servir. Et Seigneur, je veux te dire que tous ces engagements, c'est un acte de foi que je fais, parce que par moi-même, je n'y arriverai pas. Je vais me décourager et je vais abandonner. Mais je choisis, Père, de croire que tu es puissant, que ton évangile est puissant, pour me transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que je te prie. Amen.